Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24. Florent Guignard.
Bonsoir, bienvenue dans Mardi Politique. Deux jours après les élections régionales en France, nous recevons le secrétaire d'État à la réforme territoriale. Bonsoir André Valigny.
Bonsoir.
Vous êtes un des proches de François Hollande au sein du gouvernement, spécialiste des questions de justice. On se souvient notamment de votre travail après le fiasco de l'affaire Outreau. Et finalement, vous avez été nommé à la réforme territoriale il y a un an et demi. Vous êtes l'un des pères de la nouvelle carte régionale, ces 13 régions en métropole où on a voté dimanche. Quelles leçons tire donc le gouvernement de ces élections? Jamais le Front National n'a été aussi haut. Comment comptez-vous y répondre? On évoquera aussi la COP21. François Hollande a-t-il sauvé la planète ce week-end? Voilà quelques-unes des questions que nous poserons au cours de cette émission avec Roselyne Fèvre de France 24. Bonsoir Roselyne.
Bonsoir Florent.
Et Lilian Alemania de Libération. Bonsoir Lilian.
Bonsoir.
Le 13 décembre 2015, le Front National échoué aux portes du pouvoir, mais réalisé le meilleur score de son histoire, plus de 6 800 000 voix au second tour de ces régionales. C'est un record et avec plus de 40% d'abstention. André Valigny, comment en est-on arrivé là?
La montée du Front National, elle existe depuis plusieurs années. Ce n'est pas un coup de tonnerre dans le ciel politique français, puisque depuis 2002... au moins depuis 2002, mais moi je me souviens même des européennes de 1984, où le Front National avait dépassé les 10%, et on avait déjà été très surpris, et plus que ça, choqué par ce score du Front National. Donc depuis une vingtaine d'années, voire plus, on assiste à une montée progressive du Front National. Je veux la resituer, cette montée du Front National, dans un contexte européen, non pas pour la relativiser, non pas pour en minorer l'importance, voire les conséquences sur la politique française, mais pour bien rappeler que en Suisse, en Autriche, aux Pays-Bas et même en Scandinavie, pays modérés, les pays scandinaves sont des pays où les gens sont réputés sereins, équilibrés, plus que dans l'Europe latine, même en Scandinavie, les populismes, les partis d'extrême droite ne cessent de monter.
Oui, mais à l'inverse, André Valigny, dans ces pays latins comme l'Espagne ou le Portugal, où la crise économique, la crise de l'euro a fortement frappé, on n'a pas assisté à cette montée de l'extrême droite.
Non, peut-être que le souvenir du franquisme, du salazarisme au Portugal, du franquisme en Espagne, de l'hitlérisme en Allemagne aussi, puisque le populisme ne touche pas encore l'Allemagne, en tout cas beaucoup moins que la France. Peut-être que ces souvenirs historiques expliquent le fait que les populismes, que les extrêmes droites ne soient pas aussi fortes dans ces pays qu'ils le sont en France. Même si ce que je viens de dire est démenti par ce qui se passe en Italie. Parce qu'en Italie, il y a le souvenir du fascisme, bien sûr, et pour autant, le populisme, la Ligue du Nord notamment, ne cesse de monter dans les sondages et dans les urnes.
Alors, depuis dimanche soir, on entend beaucoup de responsables politiques dire « ça y est, on a vraiment compris, l'heure est grave, c'est une crise démocratique ». C'est des discours qu'on avait déjà entendus après le 21 avril 2002, l'élimination du candidat socialiste Lionel Jospin le soir du premier tour de la présidentielle. On parlait de 30 ans de montée du Front National, là depuis le 21 avril, ça fait presque 15 ans. Globalement, à quoi elle tient cette impuissance des politiques à endiguer ce phénomène?
Elle tient, me semble-t-il, avant tout à l'impuissance des politiques, pour reprendre votre expression, à faire reculer le chômage de masse, et la précarité, et les difficultés sociales des couches populaires. Je sais qu'il y a aussi, bien sûr, de la xénophobie à la clé du vote Front National, souvent, pas toujours, mais souvent. Je sais qu'il y a la peur de l'étranger, de l'immigré, que ce qui s'est passé avec la crise des migrants, l'arrivée de ces nombreux réfugiés, en provenance notamment de Syrie, a pu contribuer ponctuellement à cette augmentation du Front National. Mais je crois que le fond des choses, et c'est en cela que je reste profondément socialiste, je crois que le fond des choses tient à la difficulté que nous avons depuis une vingtaine d'années, la difficulté que nous avons à faire reculer le chômage de masse, notamment le chômage des jeunes, mais pas seulement, et puis la précarité sociale.
Alors ça, c'est votre diagnostic de socialiste. Est-ce que certains comportements chez les politiques ne favorisent pas aussi la progression du Front National, ne nourrissent pas le populisme? Question de Roselyne Fèvre de France 24.
Oui, le Parti Socialiste était bien parti, on va dire, entre les deux tours de ces régionales, en retirant le candidat arrivé en troisième position, donc une attitude responsable, républicaine. Et au final, on voit que Claude Bartolone, qui a quand même dérapé avant le second tour sur Valérie Pécresse, il a presque fait une injure, c'est presque de l'injure raciste, hein, ce qu'il a dit notamment sur la race blanche, et il récupère son perchoir. Tout le monde le soutient, que ce soit Jean-Christophe Cambadélis ou Bruno Le Roux, le patron des députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que là, vous ne nourrissez pas justement cet écœurement qu'ont les Français pour les politiques, franchement?
Concernant Claude Bartolone, j'ai jugé assez sévèrement, en mon fort intérieur, et ce soir à votre micro, ça ne me gêne pas de le dire, ses propos sur Valérie Pécresse. Et je crois même que ce matin, devant le groupe socialiste, il les a regrettés, ses propos. Pour autant...
Il aurait peut-être pu les regretter avant le second
tour. Oui, il aurait pu. Pour autant, je pense que Claude Bartolone a été candidat à la présidence de la région Île-de-France, ce qui n'a rien à voir avec son mandat de député que lui ont confié les électeurs de Seine-Saint-Denis. Il est député de Seine-Saint-Denis, président de l'Assemblée nationale. C'est une chose différente des élections régionales en Île-de-France. Je suis, moi aussi, Madame Fèvre, assez soucieux de l'exemplarité que l'on doit donner lorsqu'on fait de la politique, de l'image souvent mauvaise qu'ont les hommes politiques ou même les femmes politiques. Pour autant, je crois que sur ce cas précis, il faut être juste, il faut être équilibré. Ça n'a rien à voir d'être candidat à la présidence d'une région et d'échouer et de conserver son mandat de député. Là où vous pourriez me poser la question...
Je ne parle pas du mandat de député, je parle du perchoir.
Il est par ailleurs président de l'Assemblée nationale parce qu'il a été élu par une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Il faut être équilibré sur ces questions-là. Si vous m'aviez posé la question de savoir...
C'est un symbole. On est dans les symboles aussi.
Oui, je sais que ça compte. Je sais que ça compte et je le regrette parce qu'on mélange un peu tout.
Il y a un autre symbole, André Valigny. C'est Jean-Yves Le Drian qui remporte haut la main la région Bretagne et qui finalement va cumuler à la fois la présidence de la région et rester ministre de la Défense, contrairement aux engagements de François Hollande. Est-ce que ça aussi, c'est pas un problème ?
Ça pourrait l'être si Jean-Yves Le Drian n'avait pas prévenu à l'avance les électeurs bretons qu'il resterait au ministère de la Défense tant que François Hollande le souhaiterait.
C'était un peu ambigu.
Non, je crois qu'il l'a dit à plusieurs reprises. Il faut savoir qu'à la tête d'un exécutif, il y a un président et des vice-présidents. J'ai moi-même été président du département de l'Isère. Je m'appuyais beaucoup sur mes vice-présidents. On peut considérer que Jean-Yves Le Drian, pour le temps qu'il va rester au ministère de la Défense, sera délégué à ses vice-présidents et à ses vice-présidentes qui pourront faire tourner la région, étant précisé que lui pourra y revenir régulièrement. Mais enfin, la situation est très particulière. Nous sommes en guerre. Lorsque la guerre est là et qu'on a un ministre de la Défense qui remplit admirablement sa fonction, il serait dommage de s'en priver. Et en même temps, imaginez qu'il démissionne, enfin qu'il ne prenne pas la présidence de la région Bretagne cette semaine et qu'il annonce finalement « je ne serai pas président », alors qu'il a fait campagne comme tête de liste en disant « je serai président de la région Bretagne ». On pourrait retourner l'argument.
Peut-être qu'il l'aurait pu tout simplement ne pas se présenter à cette élection régionale.
Il était attendu en Bretagne et les résultats l'ont montré. Il était attendu en Bretagne par les Bretons et les résultats sont là pour le prouver.
André Valigny, une question de Lilian Alemania de Libération.
Sur ce point-là, vous avez tous signé une charte de déontologie de membres du gouvernement, Jean-Yves Le Drian compris, qui vous engage à ne pas présider un exécutif local tant que vous êtes membre du gouvernement. C'est assez incompréhensible qu'on puisse signer quelque chose d'un côté et ensuite, une fois qu'on a été élu, on comprend bien qu'on est en guerre et on comprend bien qu'il doit remplir son travail de ministre de la Défense. Aujourd'hui, dire ben, j'ai été élu, je continue mon boulot, mais je vais déléguer tout en gardant la présidence. Il peut mettre sa présidence entre parenthèses à ses vice-présidents et avoir un président délégué et tout en le temps qu'il y a à ce ministre. Qu'est-ce qui l'en empêche?
Rien, c'est vrai. Les circonstances sont exceptionnelles. Lorsque cette charte de déontologie a été signée par les membres du gouvernement, nous ne savions pas que nous serions en guerre en 2015. Et puis je pense que Jean-Yves Le Drian va s'organiser de façon à ce qu'il y ait sans doute un premier vice-président délégué qui assumera l'essentiel des pouvoirs d'administration quotidienne de la région Bretagne.
André Valigny, le secrétaire d'État à la réforme territoriale et l'invité de Mardi Politique. On va longuement évoquer les résultats de ces élections régionales, cette inexorable montée du Front National. Un de vos camarades, un de vos anciens collègues au gouvernement, André Valigny, la voyait venir cette vague frontiste. C'est Benoît Hamon, il sonnait le tocsin. On était en octobre 2014, c'était ici même dans ce studio à RFI.
cette politique, non seulement n'a pas de résultat sur le plan économique, mais de surcroît, parce qu'elle réduit les capacités d'intervention de la puissance publique, sa capacité à mettre en œuvre la justice sociale et l'égalité, elle menace la République, et la menace de la République, c'est la préparation, tout droit, comme on s'y prépare pour 2017, d'un immense désastre démocratique. C'est-à-dire, non seulement l'arrivée de Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles, sans coup férir, mais la menace que demain, elle dirige ce pays.
Vous évoquiez le chômage comme l'une des causes de la montée du Front National, plus 700 000 chômeurs depuis 2012. Votre gouvernement, François Hollande, sont responsables de cette montée du Front National ?
Oui, c'est un peu rapide comme, comme raccourci. Le chômage augmente depuis de nombreuses années et je vais en profiter pour nuancer ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'en 2002, le chômage avait beaucoup baissé et pour autant, Jean-Marie Le Pen a été au deuxième tour de la présidentielle et Lionel Jospin en a été éliminé de ce deuxième tour. Donc le vote Front National s'explique d'abord, à mon avis, par des raisons économiques et sociales, mais pas seulement. Selon le contexte politique, selon le contexte qui est celui des élections, lorsqu'elles ont lieu, les questions de sécurité, de délinquance, c'était le cas en 2002, peuvent être plus importantes aussi. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai parlé de...
Les questions de sécurité sont revenues au sommet de l'agenda.
Liées au terrorisme, bien sûr, je pensais à la délinquance de droit commun. Les questions de terrorisme ont beaucoup joué, bien sûr, la peur du terrorisme, et puis... Ce climat créé par les attentats, quelques semaines après l'afflux de réfugiés syriens, je l'ai dit tout à l'heure, tout ça a contribué effectivement à créer un climat favorable à Marine Le Pen. Mais je rejoins Benoît Hamon, il est évident que la question économique et donc sociale est présente, pour ne pas dire prégnante, dans l'explication du vote Front National. D'où la nécessité que nous avons de continuer à expliquer que notre politique est une politique de long terme, que on ne réarme pas l'industrie française en un an ou deux, qu'il faut au moins un quinquennat pour le faire, ce que nous avons commencé à faire, parce que le tissu économique de notre pays s'était profondément dégradé, et depuis plusieurs années, pas seulement sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, de la même façon que les comptes publics devaient être redressés, qu'ils sont en voie de l'être, pas aussi rapidement que nous le souhaitions évidemment. Tout ça prend du temps. Le problème de la politique, des hommes politiques, des femmes politiques, des journalistes politiques que vous êtes, c'est le court-termisme. Et à force d'être dans le court-termisme, nous, les politiques et les journalistes, on habitue les gens à n'être que dans le court-termisme, à ne regarder que les résultats immédiats d'un mois sur l'autre, la courbe du chômage d'un mois sur l'autre. On ne pense qu'à la prochaine élection ou au sondage qui va sortir la semaine suivante. Il faut replacer les choses dans un contexte de plus long terme, au moins de moyen terme.
Lilian Alemania.
Les gens, ils regardent aussi, enfin, s'ils restent au chômage, pour eux, c'est pas le court ou le moyen ou le long termisme. Le problème, c'est d'être au chômage, c'est le quotidien, et c'est la difficulté à joindre les deux bouts, à finir le mois avec le peu d'argent qui leur reste. Donc, c'est aussi ça la réalité.
Oui, la réalité, monsieur Alemania, elle est celle que vous dites. Il y a beaucoup de gens, beaucoup trop de gens, qui sont dans des situations financières difficiles. La précarité est une réalité. Pour autant, et sans vouloir relativiser là encore, ni diminuer la souffrance sociale qui existe dans notre pays, je demande aux Français, notamment à ceux qui souffrent, de bien mesurer que dans notre pays, nous ne vivons pas dans l'austérité. L'austérité, elle a été décidée et elle est appliquée en Espagne. Elle l'a été aussi au Portugal. En France, il n'y a pas eu de recul social.
Mais il y a eu de fortes hausses d'impôts qui ont beaucoup marqué les électeurs.
Et qui ont touché les classes moyennes. Là, je parlais des couches populaires, celles qui souffrent le plus. Nous avons la chance de vivre dans un pays où il y a des filets de sécurité sociale, à commencer par la sécurité sociale, l'assurance maladie. Il y a évidemment le RSA, toutes les allocations sociales, les allocations de solidarité délivrées par les départements et par les communes, les CCAS, les centres communaux d'action sociale. Les allocations familiales, les bourses scolaires, les tarifs différenciés dans les cantines notamment. Bref, nous avons la chance, je le répète, de vivre dans un pays où, grâce à la volonté de François Hollande, parce qu'il y a tenu depuis 2012 et de ses gouvernements successifs, nous n'avons pas touché à ces protections sociales. Alors certes, je le répète, beaucoup de gens vivent encore dans de grandes difficultés, en ayant peur de ne pas boucler la fin de mois. Mais dans beaucoup de pays qui connaissent la même crise économique que nous, l'austérité est à l'ordre du jour, ce qui n'est pas le cas en France.
Une question, André Valigny, une question de Roselyne Fèvre de France 24.
Alors c'est vrai, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect social, mais on l'a vu quand même ces derniers temps, les réfugiés, les attentats ont dominé le débat au détriment de l'économique et du social. On voit que chez les électeurs du Front National, il y a cette peur du déclassement, la peur de l'étranger dans le fond, qui était le logiciel du père, ils vont venir manger le pain des Français. Il y a aussi une demande d'autorité. D'après vous, quel est le récit que demandent aussi les électeurs du Front National? Est-ce qu'il y a cet aspect-là aussi de fermeture, hein? Marine Le Pen, elle l'a dit le soir du second tour, elle a dit il y aura les mondialistes contre les patriotes.
Il y a cette question identitaire, et pour prolonger la question, oui, de Roselyne Fèvre, votre réforme régionale, la fusion de régions parfois contre nature, en tout cas très critiquées en interne, l'Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes, etc., ça crée aussi beaucoup de crispations, ça peut être aussi une explication du vote FN.
Peut-être, je n'y crois pas vraiment, mais je vais y revenir. D'abord, je réponds à Madame Fèvre. Vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je ne dis pas que l'histoire est un éternel recommencement. Enfin, il y a des similitudes. Dans les années 30, la crise économique était violente, et donc la crise sociale était aussi, et la xénophobie était très forte. On rejetait à l'époque notamment les Italiens. Mon grand-père était venu d'Italie dans les années 20, donc les macaronis à l'époque, les Polonais aussi dans le nord de la France étaient rejetés. À cette époque-là, sans parler évidemment de l'antisémitisme, qui en période de crise est toujours très présent, notamment en France.
Bien longtemps après, avant il y avait les Bretons aussi.
Oui, et puis on peut remonter loin dans l'histoire. Voilà. Aujourd'hui, la crise économique est là, la crise sociale aussi. Donc les électeurs, pour certains d'entre eux, heureusement pas tous, mais beaucoup d'électeurs pensent qu'en fermant les frontières, en se protégeant, en restant entre nous, voire même en renvoyant les immigrés chez eux, les choses iraient mieux. C'est évidemment totalement l'inverse. Un pays qui se replierait sur lui-même, qui fermerait ses frontières, voire qui sortirait de l'euro, serait voué au déclin, voire même à la faillite. Ce qui m'a d'ailleurs conduit la semaine dernière à attirer l'attention des électeurs, je ne sais pas si j'ai été très entendu, à attirer l'attention des électeurs sur l'image internationale non seulement de la France, mais des régions françaises qui, en cas de victoire de l'extrême droite, aurait eu du mal à attirer des investisseurs étrangers.
Oui, mais ce discours, André Valigny, ça fait des années qu'on sert aux électeurs du Front National en leur disant, en gros, c'est pas bien ce que vous faites, ça ne marche pas.
Alors, il faut peut-être, effectivement...
Le discours rationnel a de plus en plus de mal à passer aujourd'hui.
Oui, vous avez raison, parce que l'irrationnel l'emporte, parce que Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen maintenant, toutes les deux, comme leur père et grand-père d'ailleurs, s'adressent à l'irrationnel des électeurs, parfois au refoulé qu'il y a dans chaque électeur. Il faut s'adresser, nous, en tout cas lorsqu'on est de gauche et même de droite d'ailleurs, il faut continuer à s'adresser à la raison des électeurs, à leur cœur aussi, quand c'est possible, mais à leur raison, et ne jamais tomber dans l'irrationnel. C'est à nous de montrer la voie, d'expliquer de façon, rationnelle et la plus intelligente possible, la plus compréhensible possible aussi par les électeurs, que les solutions de Marine Le Pen sont de fausses solutions, et que nous avons des réponses à apporter aux problèmes réels qu'ils rencontrent, et puis à replacer cela, vous avez raison, Madame Fèvre, dans un récit national. Moi, je suis un amoureux de la Marseillaise. J'ai organisé des colloques sur la Marseillaise. À l'époque, ça paraissait un peu ringard. Et à gauche, notamment, on trouvait que la Marseillaise était un peu nationaliste, sans parler du drapeau bleu-blanc-rouge, qu'on avait trop facilement d'ailleurs abandonné.
Ah, on se souvient en 2007, quand Ségolène Royal avait ressorti le drapeau français, dans votre propre camp, elle avait été fortement critiquée.
Pas par moi, en tout cas.
Elle
avait été moquée à tort, et elle avait bien raison. Moi, j'ai été très heureux de voir qu'on chantait la Marseillaise beaucoup depuis quelques semaines, et je pense que les électeurs du Front National, sans évidemment espérer que ça les fera changer de vote à court terme, les électeurs du Front National ont dû, comme moi, penser qu'on refaisait nation à cette occasion. On redécouvrait ce qu'est être une nation. Pas seulement vouloir vivre ensemble, mais l'envie de vouloir vivre ensemble, comme le disait Ernest Renan.
Ça n'a pas fait baisser le FN, ça.
Ça n'a pas fait baisser le FN à court terme. Mm-hmm. Ça peut le faire baisser à moyen terme.
Mais ce qui peut
consoler... Je dois répondre à votre question sur les régions. Hein.
Alors, on a 20 secondes. Si vous répondez en 20 secondes, ça va. Sinon,
les régions, ce sont des régions économiques avant tout, destinées à être compétitives et attractives au plan international pour attirer des investisseurs. On n'a gommé aucune identité. Les régions comme Rhône-Alpes...
C'est le sentiment qu'ont les gens.
Ils ont tort. Les régions comme Rhône-Alpes ou Champagne-Ardennes n'avaient pas de véritable identité. Moi, je suis dauphinois, il y a des Savoyards.
On continuera tout à l'heure sur les réponses que la classe politique entend apporter après la montée du Front National à ces élections régionales. À tout de suite.
Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24. Florent Guignard.
C'est la seconde partie de Mardi Politique, deux jours après les élections régionales en France. Nous sommes toujours avec le secrétaire d'État à la réforme territoriale André Valigny, et avec Roselyne Fèvre de France 24 et Lilian Alemania de Libération. On a évoqué dans la première partie, André Valigny, les causes de cette poussée de fièvre Front National. On va essayer maintenant de voir avec vous quelle réponse apporter à gauche, chez vous, dans votre camp, au Parti Socialiste. On demande des comptes, on demande une inflexion. C'est le mot qui a été employé dimanche soir par Jean-Christophe Cambadélis, le patron du Parti Socialiste, et par Martine Aubry, hier soir, au micro d'Anissa El-Jabri.
Pourquoi des hommes et des femmes, souvent des classes populaires, sont allés voter pour le Front National? Sans doute parce qu'ils ont l'impression que la République les a abandonnés et que les résultats ne sont pas là, en matière notamment de chômage. Bien évidemment, cela fait des mois que nous demandons des inflexions de la politique économique. C'est ce qu'avaient décidé les socialistes au Congrès. Et je crois que le Premier ministre et les ministres avaient signé d'ailleurs cette motion qui réclamait non pas un changement de politique économique, mais une inflexion.
Une inflexion réclamée par Martine Aubry. François Hollande y est-il prêt? On comprend plutôt le contraire depuis dimanche. C'est la petite musique qu'on entend. Puisqu'au fond, rien n'a vraiment changé. Le Front National n'a pas réussi à gagner des régions. On ne va rien changer. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'entêtement chez François Hollande depuis 4 ans et depuis la mise en place du pacte de compétitivité, la politique de l'offre, la baisse des charges des entreprises, ça n'a pas fait baisser le chômage depuis que c'est mis en place?
Le chômage a moins augmenté dans la dernière année qu'il ne l'avait fait dans les deux premières années du quinquennat. Ce n'est pas une consolation, ce n'est pas suffisant.
Parce qu'il y a un peu plus de croissance.
Parce qu'il y a un peu plus de croissance. Il devrait y en avoir un peu plus encore l'année prochaine, même si nous sommes inquiets du ralentissement de la croissance chinoise et du ralentissement de la croissance des pays émergents. Car, encore une fois, la France n'est pas une île perdue au milieu de l'océan, coupée du monde économique qui l'entoure. Nous sommes dans la mondialisation et nous sommes aussi, évidemment, influencés par ce qui se passe en Europe, bien sûr, mais pas seulement en Europe. Sur la République, dont Martine Aubry disait qu'elle avait abandonné des citoyens ou des territoires, la République n'abandonne personne. La République, elle est présente partout. Quand on augmente, comme on l'a fait, autant qu'on l'a fait, le budget de l'éducation nationale, c'est bien la preuve que la République, dont l'éducation nationale est sans doute l'un des piliers essentiels, que la République est toujours là pour venir en aide d'abord aux enfants les plus défavorisés. La République, elle est présente sur les territoires aussi, avec les services publics, qui ne reculent pas, contrairement à ce que l'on entend trop souvent. Il y a la réalité des choses. Moi, je sillonne la France. Semaine après semaine, je vais dans tous les départements, assister à des congrès des maires, participer à des congrès des maires, rencontrer des élus. La République, elle est là. L'aménagement du territoire, c'est une réalité. Mais... Et puis, il y a le ressenti de gens qui se pensent abandonnés par la République. Ils ne le sont pas. J'ai parlé tout à l'heure des protections sociales au pluriel, qui sont nombreuses en France, et tant mieux. Je pourrais parler de l'action des communes, des intercommunalités, des départements, des régions, qui développent les services publics, qui les modernisent, qui créent de nouveaux services à la population, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la santé, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif. Vous savez, nous sommes un des rares pays au monde, à part peut-être quelques pays scandinaves, le Japon sans doute, le Canada, des rares pays au monde à avoir autant d'équipements collectifs de cette qualité, scolaire, sportif, culturel, sociaux, des hôpitaux qui marchent plutôt bien quand même en France. Les soins sont gratuits, l'école est gratuite. Donc il ne faut pas sans arrêt s'affliger de la situation française. C'est à nous, politiques, de dire effectivement que tout ne va pas bien, que des progrès sont à accomplir, mais pour autant, cessons l'autoflagellation parce qu'on désespère le peuple français. Alors, Martine... qui pense toujours qu'il est le plus malheureux de la Terre, ce qui n'est pas vrai.
André Valigny, Martine Aubry, elle n'est pas forcément dans l'autoflagellation, elle réclame une inflexion, et on a bien compris, une inflexion sociale. Est-ce que le gouvernement est prêt à répondre à cette demande d'une partie de la gauche française?
Le vrai problème, je l'ai dit en commençant cette émission, c'est le chômage de masse, la précarité économique et donc sociale.
Jean-Christophe Cambadélis a parlé d'un plan contre la précarité. Oui. C'est une demande. Est-ce que ce plan va déboucher?
Je ne suis ni président de la République, ni Premier ministre.
Il y a quelques informations.
je sais ce qu'a dit le Premier ministre hier soir au journal de 20h sur France 2, à savoir qu'un plan était en préparation, qui était déjà en préparation. Nous n'avons pas attendu les régionales pour commencer à travailler sur ce plan. Myriam El Khomri en a parlé jeudi dernier à la réunion des membres du gouvernement à Matignon, qui a lieu tous les 15 jours. Un plan est en préparation pour mettre le paquet, si vous me passez l'expression, sur l'apprentissage et la formation des chômeurs. Je sais qu'on a déjà entendu ces discours. Je sais que des choses ont déjà...
5 milliards, la formation professionnelle. Et on en a fait quoi?
Depuis des années. À redéployer de façon plus efficace. Donc, cela a déjà été tenté, pas suffisamment. Je pense que Manuel Valls a commencé hier soir à répondre à cette demande.
Alors, on a bien compris que c'était une réponse économique et pas une réponse sociale, comme le réclame...
Mais les deux sont liés, M. Quignard. Les deux sont liés. S'il y a moins de chômage, si les chômeurs sont mieux formés, ils trouveront davantage et plus facilement un travail. Si on met plus de gens en apprentissage plutôt que de les laisser en déshérence économique et donc sociale, les choses iront mieux. Vous savez, quand les choses s'améliorent sur le plan économique, quand tout le monde se sent utile dans la société, quand tout le monde a un job, parfois même un petit boulot, les choses vont quand même mieux. Moi, je le répète, je ne suis pas socialiste pour rien. La question sociale est fondamentale. Et je suis d'accord avec Martine Aubry et Benoît Hamon. La question sociale est fondamentale. Mais la question sociale ne peut être résolue
que par le
progrès économique.
C'est ça ce que vous dites aujourd'hui.
Rosine Fèvre de France. L'affection, pourquoi pas. Mais les résultats des régionales montrent quand même qu'il y a une validation de la stratégie de l'exécutif. On a vu que l'extrême gauche s'écroulait. Donc pas question pour Manuel Valls d'un coup de barre à gauche. Mais est-ce que... vous n'êtes pas les politiques un peu à côté de la plaque, parce que ce qui compte, c'est quand même les réformes aujourd'hui, c'est de débloquer, c'est de déverrouiller. Il y a quand même deux France, hein, une France coupée en deux. Il y a les fonctionnaires qui, dans le fond, ne risquent rien, et puis il y a les autres qui risquent tout parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils ont ils sont dans la précarité, ils n'ont pas de CDD, etc. Est-ce que faut pas déverrouiller par les réformes le marché du travail, effectivement l'apprentissage? C'est par ça qu'il faudrait commencer, peut-être pas par des inflexions de ci, de là, mais une vraie réforme en profondeur des mécanismes de libération de ces énergies-là.
Oui, eh bien, une réforme du Code du travail est en cours. Une mission a été confiée à Robert Badinter. Myriam El Khomri devrait présenter cette réforme au printemps 2016. Vous savez, ce sont des réformes qui demandent du temps pour être bien calibrées, pour être concertées aussi, parce que la méthode Hollande dans le domaine social, c'est la concertation. Parfois, ça aboutit, tant mieux. Parfois, ça n'aboutit pas et le gouvernement prend ses responsabilités. Enfin, on ne peut pas nous demander en 2 ou 3 ans d'avoir réglé tous les problèmes qui se sont accumulés depuis 20 ou 30 ans.
C'est vrai. Non, mais par exemple, juste reviens sur les deux annonces de Manuel Valls hier soir, la formation et l'apprentissage. La formation, François Hollande, la formation des chômeurs de longue durée, François Rebsamen a annoncé un grand plan en mars 2015. Et là, on en reparle. Le plan, visiblement, il n'existe toujours pas. Sur l'apprentissage, c'est pareil. À la rentrée 2014, on annonçait un plan pour relancer l'apprentissage. On a l'impression que c'est toujours les mêmes discours, et je pense que c'est l'impression qu'ont les électeurs quand ils vous entendent, c'est d'entendre toujours les mêmes discours depuis des mois et des mois qui ne produisent aucun résultat. J'en reviens à ma question initiale.
Si les électeurs le pensent et le ressentent, si vous le dites, c'est qu'il y a sans doute un peu de vrai dans tout ça. Et je ne veux pas le nier, je n'ai pas l'habitude de pratiquer la langue de bois. Donc il faut passer à la vitesse supérieure. Moi, je pense que le fait qu'on ait changé de région, un mot pour revenir sur les identités régionales, elles ne sont en rien menacées par la réforme des régions. Vous savez, le Dauphiné, la Savoie, le Quercy, le Périgord, ce sont souvent des provinces de l'ancien régime qui ont ces identités auxquelles les Français sont tellement attachés. Et ces identités régionales n'ont pas été menacées dans les années 70 par la création de Rhône-Alpes, de Provence-Côte d'Azur, ou d'Aquitaine, ou de Poitou-Charentes. Elles ont continué, et elles continueront longtemps. Elles remontent à l'ancien régime, ces provinces, pour la plupart. Nous avons simplement agrandi les régions administratives qui deviennent de plus en plus des régions économiques pour qu'elles soient plus attractives, plus efficaces, plus compétitives. Mais loin de nous l'idée de vouloir attenter aux identités régionales ou provinciales. Je reviens à votre question. Je pense que les régionales qui viennent d'avoir lieu vont permettre la mise en place de nouveaux exécutifs, de droite comme de gauche, dans les régions françaises, avec des moyens accrus, des pouvoirs accrus, des compétences étendues en matière économique notamment, surtout en matière économique, et que le gouvernement, Emmanuel Valls l'a dit hier soir, va pouvoir s'appuyer sur ces nouvelles régions en partenariat pour relancer l'apprentissage, car c'est une compétence régionale, et puis pour aussi faire en sorte que la formation professionnelle dans notre pays soit plus efficace. Donc ça, c'est une opportunité à saisir, et je suis sûr que, notamment Xavier Bertrand et Christian Estrosi, élus grâce à la gauche, pas seulement, mais notamment grâce à la gauche, sauront saisir la main que leur a tendue hier soir le Premier ministre.
Parce que la formation professionnelle, c'est comme un gros fromage de 35 milliards d'euros que...
qu'il faut rendre plus efficace, oui. Si un fromage peut être efficace. En tout cas, ce sont des dispositifs qu'il faut rendre plus efficaces, plus en phase avec les marchés du travail, les marchés de l'emploi au niveau régional. Et je peux vous confier un regret ?
Allez-y.
Quitte à peut-être me faire taper à nouveau un peu sur les doigts, je pense qu'on aurait pu aller plus loin lors de la réforme territoriale sur les compétences économiques des régions en matière d'emploi. On a fait quelques avancées significative. Les présidents de région s'en sont félicités à l'époque. Alain Rousset aurait souhaité qu'on aille plus loin. J'étais personnellement partisan qu'on puisse aller plus loin.
Ça veut dire quoi, aller plus loin, concrètement ?
Eh bien, à titre expérimental, Alain Rousset le demande à nouveau, j'ai vu ça dans la presse ce matin, à titre expérimental, on pouvait envisager de confier la compétence du service public de l'emploi à certaines régions qui l'auraient souhaité. À titre expérimental, je le répète, je sais bien qu'on m'a rétorqué à l'époque, on vient il y a quelques années qu'a été décidée la fusion des ACEDIC et de la NPE, Pôle emploi est en train de se réformer pour être plus efficace, ce n'est pas le moment de tout chambouler à nouveau. J'ai entendu cet argument que les gens de Pôle emploi, notamment le directeur, m'a opposé à l'époque. Mais je pense que dans les années qui viennent, on va aller vers une régionalisation de plus en plus accentuée des politiques de l'emploi.
Lilian Alemania de Libération.
Pour revenir sur la question de Florent, on a l'impression que la gauche sous ce quinquennat a réussi son choc de compétitivité. Voilà, vous avez mis le CICE, le pacte de responsabilité pour rétablir la compétitivité des entreprises, mais il manque toujours ce choc de lutte contre la précarité, de lutte contre la pauvreté qui est attendu de la gauche et qui est attendu par les électeurs de 2012 et par des gens qui aujourd'hui ne croient plus en la politique, se réfugient dans l'abstention, voire votent Front National.
Oui, c'est le même constat que l'on fait depuis le début de l'émission. La précarité ne recule pas suffisamment, même si...
Alors pourquoi ne pas augmenter le SMIC plus de 0,6%
pour ne pas nuire justement à la compétitivité des entreprises que nous essayons de renforcer par ailleurs, car vous savez que lorsqu'on augmente le SMIC, cela a une répercussion sur l'ensemble des salaires, en cascade, à l'envers, si j'ose dire, de bas en haut. On ne peut pas d'un côté vouloir renforcer la compétitivité des entreprises et d'un autre côté, parce qu'elles ne le souhaitent pas, provoquer une augmentation des salaires. Mais nous augmentons le pouvoir d'achat par d'autres moyens, notamment des mesures sociales qui ont été prises par les gouvernements depuis 2012, et notamment par les baisses d'impôts dont vous parliez tout à l'heure, notamment sur les classes moyennes. C'est par aussi les baisses d'impôts que l'on peut améliorer. Comment ?
Je parlais des hausses d'impôts.
Oui, mais depuis, on les a baissées.
Un petit peu. Et pas pour tout le monde, apparemment.
Pour 9 millions de Français, ce qui n'est pas mal. Et cela va continuer l'année prochaine.
Les gens qui ne payent pas d'impôts, par exemple, ils ont eu la TVA qui a augmenté. Eux, ils ont eu un pouvoir d'achat qui a baissé.
Oui, des allocations ont augmenté, des allocations sociales ont augmenté, qui n'existent pas dans beaucoup de pays développés, et que nous avons la chance, je le répète, d'avoir en France. Tout à l'heure, j'ai parlé de toutes les allocations sociales, j'aurais pu ajouter l'allocation logement. Tout ça est très important, vous savez, dans le budget d'un ménage, y compris d'un ménage monoparental, d'une famille monoparentale, il faut tout additionner. Je ne dis pas que ces gens-là ne sont pas malheureux, mais je dis qu'il y a beaucoup de pays où ils seraient beaucoup plus malheureux encore, des pays développés, hein, d'Europe, proches de nous, s'il n'y avait pas toute cette panoplie de protection sociale que nous avons la chance d'avoir en France.
Rosine Fèvre.
On a beaucoup entendu François Hollande pendant les attentats. Il a parlé quasiment tous les jours pour présenter effectivement l'état d'urgence. Et aujourd'hui, après effectivement ce choc du premier tour, de l'entre-deux tours, on n'entend pas François Hollande. Est-ce que là, il y a une parole présidentielle qui est manquante ?
On a une parole présidentielle qui se raréfie depuis quelques semaines, c'est vrai, parce qu'il n'a pas voulu interférer avec le débat des régionales. S'il était intervenu, souvenez-vous des présidents de la République successifs,
par exemple, après,
voilà. Qui vous dit qu'il ne va pas parler, notamment le 31 décembre.
Ah oui, c'est pas ça. Bon.
C'est dans 15 jours, le 31 décembre. Non, il n'a pas voulu interférer avec les élections régionales. Moi, je préfère un président qui laisse les Français décider librement de leur choix aux élections, plutôt que de ces présidents successifs qui venaient intervenir. J'ai revu l'autre jour des images images d'archives de Valéry Giscard d'Estaing intervenant à la télévision un samedi soir avant le deuxième tour des élections législatives.
Ça aurait été interdit par le CSA.
Bon, donc on a un président qui a laissé les Français décider librement quels étaient leurs choix pour les élections régionales. Il a beaucoup parlé, et à juste titre, et sa parole a été entendue et beaucoup appréciée par les Français lors des attentats, après les attentats, jusqu'à la cérémonie des Invalides. Je pense qu'il a eu raison de rester dans son rôle de président de la République, dans la situation où nous sommes.
Il gère son capital sympathie, là, en ce moment?
Non, il gère un pays en état de guerre contre le terrorisme. Voilà, c'est pas son capital sympathie. Il se trouve que la façon dont il a géré, entre guillemets, dont il a assumé, plutôt, le terme est plus élégant, dont il a assumé la fonction présidentielle pendant les attentats et dans les semaines qui ont suivi, cette façon qu'il a eu d'être président de la République, de rassembler les Français, de faire corps avec la nation, tout ça a été très apprécié par les Français. Et donc il faut que ça continue, évidemment, parce que la guerre n'est pas finie, le terrorisme est toujours présent, il est même prégnant, y compris dans l'inconscient collectif, et je pense que ça a joué aussi. Ce sentiment de peur, plus ou moins consciente, que les Français ont depuis les attentats, a pu jouer dans le résultat de dimanche dernier dans le vote Front National.
Alors la semaine prochaine, André Valigny, dans 8 jours au Conseil des ministres, le gouvernement va examiner le projet de loi de révision de la Constitution. C'était l'une des principales annonces du discours de Versailles de François Hollande juste après les attentats. L'instauration d'un régime civil d'état de crise. On parle aussi beaucoup de la déchéance de la nationalité pour les terroristes qui ont deux nationalités. Une proposition qui vient de la droite et de l'extrême droite. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Il y a beaucoup de troubles en ce moment à gauche sur cette question de la déchéance de la nationalité.
Attendons de savoir ce qu'il y a dans le texte que je ne connais pas, qui a été soumis au Conseil d'État.
Il n'est pas sûr, vous nous dites, que la déchéance de nationalité figure dans le projet de loi
je n'en sais
constitutionnel.
Rien. Il ne vous a pas échappé que je ne suis pas garde des Sceaux. Donc je n'ai pas eu à travailler sur ce texte. J'attends de savoir ce qu'il y aura dedans. Il va être présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine. Il est au Conseil d'État. Et je ne peux pas m'exprimer sur un texte que je ne connais pas.
Mais qu'est-ce que vous dites à tous les opposants à l'état d'urgence et à cette réforme constitutionnelle qui explique que finalement on entre peu à peu dans un état policier où il y a de plus en plus de moyens pour la police et beaucoup moins de moyens pour la justice et le contrôle des opérations de police?
Alors sur les moyens de la police et de la justice, ils sont renforcés, aussi bien pour la police que pour la justice, des effectifs supplémentaires.
Pas en situation d'état d'urgence.
Ont été décidés.
En situation d'état d'urgence, la justice se retire, est en retrait.
Non, depuis 2012, les effectifs de la police la justice sont augmentés. Sous l'état d'urgence, les mesures annoncées à Versailles visent aussi bien à renforcer la police que la justice. La police que la justice. Et sur l'état d'urgence lui-même. Sur l'état d'urgence lui-même, il y a 3 garde-fous, si j'ose dire, qui sont de nature à rassurer les citoyens dont je fais partie, soucieux de la défense des libertés individuelles, des libertés publiques et des droits de l'homme. Le premier garde-fou, c'est le contrôle parlementaire, qui a été considérablement renforcé. Les commissions des lois de l'Assemblée et du Sénat sont régulièrement informées de l'état d'urgence et des dispositions qui sont prises, de l'action de la police notamment, et de la gendarmerie dans le cadre de cet état d'urgence. Le contrôle parlementaire est renforcé aussi par l'information que donne régulièrement le Premier ministre lui-même au bureau des assemblées parlementaires, les présidents de groupe, les présidents des chambres, bien sûr, les présidents de groupe, les présidents de commission. Deuxième garde-fou très important qui devrait vous intéresser, qui vous intéresse sans doute beaucoup, c'est la presse. Vous savez que dans la loi de 1955, la presse pouvait être encadrée, pour ne pas dire bâillonnée ou presque. Ces dispositions ont été abrogées. La presse est totalement libre, et heureusement, de dire ce qu'elle a à dire sur l'état d'urgence et sur son application.
Il y a la crainte de... que le juge passe à l'as.
Et troisième garde-fou, Madame Fèvre, justement, ouais. le juge administratif contrôle l'état d'urgence. Alors, certes, je sais, comme avocat, j'ai appris à la faculté que le gardien des libertés individuelles, c'est d'abord le juge judiciaire. J'en ai bien conscience. Pour autant, le juge administratif fait un travail remarquable. Depuis quelques années, on s'aperçoit qu'il est lui aussi très soucieux des libertés individuelles et des libertés publiques. Des décisions ont été prises par les tribunaux administratifs en référé, ou pas en référé, justement. Et le Conseil d'État a censuré un tribunal administratif qui n'avait pas jugé utile de statuer en référé. Donc vous voyez, juge administratif, tribunaux administratifs, puis Conseil d'État, presse et journaliste que vous êtes, contrôle parlementaire, député, sénateur, il y a des garde-fous, il y a des garanties que l'on apporte à ce qui pourrait être des dérives dans l'état d'urgence qui n'ont pas eu lieu jusque-là. À ma connaissance.
Le défenseur des droits aussi.
Le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui est vigilant et il a raison de l'être. Donc voilà, moi je suis comme vous, très attaché aux droits de l'homme et du citoyen, à toutes ses libertés. Et je suis moi-même, à mon modeste niveau, au gouvernement vigilant sur ce qui se passe.
On arrive presque à la fin de cette émission, André Valigny. Il y a un sujet qu'on va à peine effleurer, mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, et notamment sur RFI, c'est la COP21. Un accord mondial, universel, contraignant. Il y a débat, en tout cas un succès de François Hollande. Il a sauvé la planète, c'est le principal gain de son quinquennat, selon vous ?
Non, il a fait beaucoup de choses depuis le début de son quinquennat, notamment en matière justice, puisque je parlais à l'instant de la justice. Revenons d'un mot sur le Front National, il y a l'immigration dont j'ai parlé, il y a la précarité sociale, les difficultés économiques. Il y a aussi cet anti-parlementarisme, ce populisme consistant à dire tous pourris, ces élites s'arrangent entre elles. On a beaucoup avancé dans ce domaine. La justice est indépendante comme elle ne l'a jamais été. Le parquet, notamment, aucune instruction individuelle, les affaires suivent leur cours. Il y a eu la création de la haute autorité pour la transparence financière de la vie politique. Il y a eu des exemples ou des contre-exemples qui ont été sanctionnés très vite. Je pense à Jérôme Cahuzac. Donc, je le répète, il faut déconstruire pierre par pierre le mur qui s'est dressé entre le Front National, entre le peuple qui peut voter Front National et les dirigeants politiques. Et parmi ces pierres qu'il faut démonter une par une, il y a justement cet anti-parlementarisme dont je viens de parler. Sur la COP21, c'est un grand succès de la France parce qu'elle a eu le courage de l'organiser, cette conférence. Il n'y avait pas beaucoup de volontaires. François Hollande a dit oui tout de suite.
Il a eu du flair.
Je ne sais pas s'il a eu du flair. Il a pris conscience, François Hollande, parce que je le connais bien, de l'urgence écologique. C'est vrai que à l'origine, je l'ai connu il y a 15 ans. Je suis, comme vous l'avez rappelé, un proche de François Hollande depuis le début, si j'ose dire. Nous n'étions pas autour de François Hollande les plus ardents défenseurs de l'écologie.
Lui non plus.
Et lui non plus. Mais voilà, on peut prendre conscience, même tardivement, de certaines urgences.
Vous n'avez plus besoin des écologistes maintenant à gauche.
Comment ?
Vous n'avez plus besoin des écologistes à gauche ?
On a besoin. Si, bien sûr qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin des écologistes. On a besoin des communistes, on a besoin de tous ceux qui se reconnaissent dans le progrès social, dans l'égalité républicaine, dans la justice aussi, sociale notamment. Voilà, donc on change de sujet, là on parle du pacte, ou plutôt de l'alliance populaire de Jean-Christophe Cambadélis. Évidemment que le rassemblement de la gauche doit être le plus large possible pour être au deuxième tour en 2017.
Il peut se faire avec la politique actuellement menée, sans inflexion.
Sans inflexion, avec des inflexions en matière d'apprentissage, de formation professionnelle, avec des résultats économiques qui pourraient arriver l'année prochaine, avec un bilan qui est quand même important, avec aucun recul sur les protections sociales, avec pas d'austérité en France, comme je l'ai déjà dit, avec des avancées dans tous les domaines. Voilà, le rassemblement se fera autour de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire, parce qu'il reste beaucoup à faire après 2017.
Très rapidement, André Valigny, on arrive à notre dernière séquence, questions courtes, réponses courtes, si possible. On parle beaucoup de renouvellement de la classe politique. Est-ce que vous avez déjà, vous, décidé quand vous arrêterez la politique ?
Bah écoutez, j'ai été réélu en mars dernier dans mon canton, dans un contexte difficile, face au Front National, pour 6 ans. Donc je vais évidemment continuer à m'occuper de mon canton natal, là où je vis, là où j'agis, au jour le jour, où je fais des permanences sans rendez-vous, même en étant membre du gouvernement, où je pratique la politique par la preuve d'une présence sur le terrain efficace auprès des gens. Alors renouveler, pourquoi pas, rajeunir peut-être aussi. Vous savez, j'ai réuni hier soir les membres de mon cabinet,
dont
la plupart ont une trentaine d'années, pour leur demander quelles idées nouvelles eux qui ont 30 ans pour justement le renouvellement politique. J'attends toujours. Donc il faut agir sur le terrain, être efficace auprès des gens.
Robert Badinter ne tarit pas d'éloges sur vous. Et c'est pas n'importe qui, Badinter. Et vous êtes un spécialiste de la justice. Pourquoi vous n'avez jamais été ministre de la justice ? Alors François Hollande est un ami.
Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Nous avons une ministre de la justice qui est remarquable, qui est une femme courageuse, de talent, très cultivée, et je me reconnais.
On mettra une petite musique quand il y aura la langue de bois, hein, on pourrait faire ça.
Mais je persiste à dire que Madame Taubira est une femme intelligente et courageuse,
merci,
et très cultivée.
Merci André Valigny, secrétaire d'État à la réforme territoriale, invité de Mardi Politique. L'émission touche à sa fin. Merci à Laurie Plisson à la réalisation, Audrey Iatoni à la programmation. Une courte pause pendant les vacances de fin d'année. On se retrouve le 5 janvier avec Thierry Mondon, votre collègue. We'll be right back.